Il est 8h, vous êtes à l'écoute des Promesses de l'Aube. Et pour introduire notre invité qui est déjà en studio, je propose d'écouter ceci. Plus rien ne marche, je vais présenter notre invité. Bienvenue Olivier Taïmans.
Moi je marche encore.
C'est l'intérêt de l'invité en studio de Grand Matin. Merci d'être venu. Et effectivement, c'est quand on espère que la technique va marcher, puis elle ne marche pas. Mais donc, je vais vous présenter les questions aujourd'hui d'un non-happy birthday. Et donc, vous êtes le coordinateur de cette campagne. Vous travaillez pour Fédito Bruxelles ASBL. Mmh, et donc, vous êtes venu nous parler de cette campagne Un Happy Birthday et de cette loi 1921 qui fête donc aujourd'hui, 24 février, son 100e anniversaire.
Oui, effectivement, c'est aujourd'hui le 24 février, le jour anniversaire de la loi de 1921. C'est pas juste un anniversaire, c'est un centenaire. Et c'est malheureux anniversaire parce que on est nombreux à estimer que cette loi pose quelques problèmes, que depuis un siècle elle aurait pu un petit peu évoluer, voire même beaucoup, voire même complètement changer d'optique. Donc voilà, pour ça on a lancé une campagne avec tout un tas d'associations, de citoyens, etc., d'acteurs de terrain notamment, pour demander effectivement que cette loi évolue au moyen d'un groupe de travail parlementaire. C'est vraiment une des principales revendication de cette campagne, parce qu'on n'a pas non plus la science infuse, on ne prétend pas avoir toutes les réponses, un modèle clé sur porte. Donc l'idéal serait que la démocratie fasse son travail et qu'un groupe de travail parlementaire prenne un peu les choses en main. On a quand même quelques idées vers où on voudrait que ça évolue, à savoir dans un premier temps la décriminalisation de l'usage des drogues, qui est une mesure qui coûte trois fois rien et qui rapporte énormément, aussi bien en termes pécuniaires qu'en termes humains. Et à terme, il y a d'autres pays qui le font, peut-être légaliser, c'est-à-dire légaliser dans un premier temps le cannabis parce que ça fonctionne déjà pas mal ailleurs. Et puis, idéalement, pour une question de cohérence aussi, petit à petit et selon des modalités différentes et qui restent entièrement à définir, légaliser aussi d'autres substances, voire les autres substances.
Et justement, en préparant cette émission, je suis tombée hier sur deux articles. L'un qui évoquait ce record de saisie de 1500 kilos d'héroïne qui ont été saisies dans le port d'Amsterdam hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et aujourd'hui, ce matin, un article qui évoquait la dépendance de plus en plus croissante des Belges aux antidépresseurs.
Ah tiens.
Et donc ces deux éléments qui mettent bien en évidence certains aspects que vous pointez dans votre campagne et que les organisations qui traitent du sujet, qui travaillent sur cette question traitent, c'est d'une part l'argent, les dépenses considérables pour réprimer cette consommation, mais aussi pour essayer de juguler le trafic de drogue, qui pour autant, selon les études, n'a aucun impact. Enfin, c'est 1500 kilos d'héroïne qui ont été saisies, ça ne va pas avoir d'impact sur la distribution, sur le prix de l'héroïne.
Non, du tout. Début 2021 même, donc c'est très récent, le SPF Économie sortait des chiffres assez fièrement parce qu'ils avaient effectivement bien travaillé. Ils ont multiplié en 8 ans, je pense, la quantité de saisies dans le port d'Anvers de cocaïne spécifiquement par 14. On est passé à 65 tonnes, ce qui est quand même considérable, sachant combien les gens sniffent à la fois. 65 tonnes, c'est juste énorme. Félicitations, mais malgré ça, il n'y a pas vraiment d'impact sur le marché dans la rue. La cocaïne ne devient pas plus chère, elle ne devient pas plus difficile à à se procurer. On a une série de témoignages en vidéo dans cette campagne. Il y a notamment une écrivaine flamande, Christine Hemmericht, qui dit moi, ce que je vois autour de moi, c'est que 50 euros de cocaïne, c'est plus facile à se faire procurer à se faire amener qu'une pizza. Et il y a un policier aussi qui dit effectivement, la drogue entre par tonne, dans les ports, notamment celui d'Anvers. Et nous, on nous félicite quand on saisit 2 kilos. Donc il y a effectivement quelque part une incohérence qui est quand même à souligner. Après, c'est sûr qu'une décriminalisation, qui est une mesure un peu premier pas, ne résout pas le problème des mafias, de la qualité des produits, de l'approvisionnement, etc. Mais c'est un pas dans la bonne direction, clairement. Et sur les antidépresseurs, ça montre bien effectivement qu'il y a un appétit humain, et ça c'est quelque chose qu'on souligne aussi, le besoin d'ivresse, c'est la recherche de plaisir, etc. C'est quelque chose qui est inhérent à l'humain depuis la nuit des temps, et que aucune loi n'a jamais pu réprimer, ou en tout cas supprimer. Quelque part, en fait, d'édicter une loi pour éradiquer un comportement et penser que En votant une loi, on va supprimer le comportement indésirable, c'est quelque part de la pensée magique quand même, c'est assez intéressant.
Mais du coup, est-ce qu'on peut revenir justement, parce qu'il y a ce paradoxe dans lequel l'alcool, le tabac sont totalement autorisés, enfin, entre guillemets, en tout cas acceptés, les antidépresseurs et tous les médicaments, les opiacés aux États-Unis qui créent une dépendance absolue aussi en termes de... Et donc avec des effets quand même dramatiques. Tout ça est autorisé.
Oui.
Et
voire même promotionné.
Voilà.
Parce qu'il y a de la publicité quand même pour... le tabac, ça a fort diminué. L'alcool, il y a quand même encore... Oui. Ouais.
Et donc, comment on explique ça? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut faire justement, puisqu'on fête le centenaire de cette loi, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière? Comment a émergé... quels étaient les enjeux début 20e, quand a émergé cette loi et cette volonté au niveau international de réguler toute cette consommation et cette...
Ça remonte même avant, en fait, parce que les premières lois sont venues via l'opium, en fait. Et l'opium, c'est une vieille histoire coloniale qui venait principalement de l'Empire britannique, un peu de l'Empire colonial français aussi. En fait... En Inde, l'Empire colonial britannique produisait des quantités assez phénoménales d'opium et cherchait des débouchés pour cet opium. Et donc, les cherchait en Chine, parce qu'il y avait quand même un sérieux marché. La Chine, par contre, n'était pas très en demande, dans le sens où elle avait une balance commerciale favorable et elle n'avait pas nécessairement besoin d'importer tout cet opium. Et puis, les Britanniques avaient une pression vraiment forte pour faire entrer cet opium via des trafiquants, notamment en Chine. Et ça commençait à faire pas mal de gens qui, dans toutes les classes sociales d'ailleurs, qui étaient dépendants. Et à un moment donné, l'empereur de Chine a dit ça suffit, il a voulu imposer une interdiction. Et ça a résulté dans, je fais un petit peu court, les guerres de l'opium. Il y en a eu deux, où c'était d'abord l'Empire britannique contre la Chine, et puis les Français se sont mêlés dans l'histoire, et les Américains. Donc on parle de milieu du 19e, 1839-1842 la première guerre et 56-60 la seconde. C'est les Chinois qui ont perdu et ils ont été obligés de laisser entrer l'opium. C'est comme ça qu'ils ont perdu Hong Kong notamment aussi. Et donc il y avait ce marché florissant. Après, vers la fin du siècle, c'est venu notamment de missionnaires américains. Ils voyaient un petit peu quand même les ravages de cet afflux gigantesque d'opium, et ils avaient un côté très moraliste, et donc ils ont commencé à faire du lobbying aux États-Unis pour interdire l'opium. Les mauvaises langues disent qu'il y avait en parallèle tous les Chinois qu'on avait fait venir en Californie pour construire les chemins de fer, qui devenaient nombreux. Les chemins de fer étant achevés, ils étaient là et ils consommaient de l'opium. L'interdiction de l'opium aurait aussi été une façon de un peu contrôler les Chinois consommateurs d'opium en Californie. Toujours est-il que tous ces efforts-là ont abouti à la première convention de l'opium de La Haye en 1912, qui a pris un certain nombre de mesures restrictives sur l'opium et puis aussi sur l'héroïne, la cocaïne, les quelques substances qui avaient un peu d'importance à l'époque. Et là, on a vu une chose qui s'est répétée tout au long de l'histoire de la prohibition, c'est que la prohibition va être poussée fortement par les États-Unis et imposée à pas mal d'autres pays, et notamment au moyen de traités internationaux. Et donc là, ça n'a pas fait exception. Et en Belgique, c'est arrivé par la paix de Versailles, le traité de Versailles, incluait un chapitre apparemment qui prônait la ratification de la convention de La Haye sur l'opium de 1912 dans la loi suite à la guerre. Et donc en Belgique, ça s'est effectivement fait en 1921. Il faut noter qu'en Belgique, il n'y avait pas spécialement de problème de drogue en 1921, et la loi est très calquée sur le problème de l'opium, dans le sens où on voit par exemple qu'il est interdit de fournir un local pour favoriser la consommation de drogue. C'était spécifiquement taillé sur mesure pour les fumeries d'opium, et je ne connais pas un historien qui affirmera qu'il y avait des fumeries d'opium en Belgique et que c'était un fléau. Donc il y a vraiment ce truc clé sur porte, reprenez notre loi. Et voilà, et ça a encore des conséquences aujourd'hui, dans le sens où par exemple à Liège, il y a une salle de consommation à moindre risque, qui est précisément le fait de fournir une salle pour favoriser la consommation. Ici, en l'occurrence, pour un mieux, dans des conditions sanitaires intéressantes et beaucoup mieux que ce qu'on connaît dans la rue. Et ben, ça pose toujours problème, parce que cette SCMR, comme on dit, salle de consommation à moindre risque, est en infraction de la loi. Et voilà, c'est une des raisons pour adapter le cadre légal d'aujourd'hui.
Et une question que je me pose en vous écoutant, c'est aussi, est-ce que c'était une question, je vais dire, coloniale ? En tout cas, est-ce que colonial et de classe aussi. Est-ce que cette répression, cette prohibition, elle a émergé et elle a duré aussi parce que elle concernait une certaine classe, en tout cas à ses débuts.
C'est-à-dire que on s'est toujours posé beaucoup de questions. On a eu de temps en temps quelques réponses sur cet enjeu-là. Est-ce que vraiment les lois anti-drogue servent à faire disparaître les drogues, ou est-ce que c'est un instrument de contrôle ? Alors j'ai déjà évoqué la question des immigrés chinois en Californie, mais ça a été effectivement une constante tout au long de l'histoire de la prohibition. On a vraiment ciblé des groupes particuliers en fonction de substances particulières. À noter par exemple que notre drogue culturelle, à savoir l'alcool, il y a eu, via les ligues de vertu, etc., aussi une tentative de prohibition, la prohibition avec une majuscule, celle qu'on connaît sous ce nom-là, aux États-Unis. Ça a duré, je pense, de 1920 à 1933, grosso modo, environ 13 ans. Et pour cause, parce que là, toute la classe moyenne blanche n'était pas contente du tout. Ils défilaient avec des panneaux « on veut boire », et ben ils ont été entendus. Tandis que l'autre prohibition des autres substances qui dure depuis un siècle, c'est parce que ça touche des substances comme, par exemple, le cannabis, qui était fort utilisé par les hispaniques aux États-Unis, qui a été interdit sans doute en partie pour contrôler cette population-là. La cocaïne et les noirs, et l'héroïne. Enfin, il y a vraiment des substances culturelles pour pas mal de catégories de population, qu'elles soient ethniques ou qu'elles soient sociales. Et c'est clair que ça a été utilisé comme instrument. D'ailleurs, dans une interview bien plus tard, un proche conseiller de Nixon, qui est quand même celui qui a lancé le terme de « war on drugs » à la fin des années 60 ou au début des années 70, a reconnu, a dit « est-ce qu'on savait qu'on mentait sur les drogues ?» Oui, on le savait parfaitement, mais pour nous, c'était une façon. On a interdit le LSD pour contrôler les hippies et les anti-guerres. On a interdit l'héroïne et le cannabis, etc., pour un peu calmer les noirs. Ça a toujours été un instrument. Et effectivement, c'est quelque chose que... Alors aujourd'hui, dans notre société en Belgique, est-ce que c'est encore le cas ? Dans la pratique, c'est encore le cas. Dans l'intention, je ne sais pas. C'est le moment de prouver que ce n'est pas le cas. Mais dans la pratique, c'est sûr. Je veux dire, toutes les classes sociales fument du cannabis, par exemple. On a beaucoup plus de risques d'avoir des ennuis par rapport au cannabis quand on est un jeune un peu basané du côté de Molenbeek que quand on est d'âge moyen, bien blanc, à Waterloo, par exemple. juste pour donner un exemple.
Et justement, on revenait à Nixon et aux années 60 avant d'en arriver à la situation actuelle et les enjeux et les revendications de la plateforme et les revendications portées par cette campagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des points saillants dans... Est-ce qu'il y a justement eu des changements dans les lois au niveau international ou cette loi est restée figée depuis 1921?
Alors en tout cas, son esprit est resté figé. Ici en Belgique, il y a eu quelques aménagements et des passages pas très clairs, notamment par rapport au cannabis. Avec l'avènement du gouvernement arc-en-ciel en 1999, il y avait une volonté de faire quelque chose par rapport au cannabis. Et en fait, ça a créé plus de foutoir qu'autre chose, parce que plus personne ne savait exactement si oui ou non le cannabis était légal. D'autres adaptations, c'est par rapport aux autres substances qui apparaissent, parce que tout ce qui est interdit, les designer drugs, comme on dit, apparaissent pour contourner l'interdit. D'ailleurs, il y a des pays comme l'Angleterre où du coup, on interdit toute une structure moléculaire et toutes les petites queues qui pourraient s'ajouter à gauche ou à droite de la molécule sont déjà couvertes d'avance, ce qui pose problème quelque part aussi au niveau juridique, mais on ne va pas entrer là-dedans. Donc il y a eu des petits aménagements, mais l'esprit est toujours resté le même. L'esprit est l'esprit de l'interdiction, l'esprit de la répression, et c'est ça qu'on voudrait voir changer. L'idée n'est pas de faire un petit aménagement à gauche ou à droite, c'est vraiment partir sur un autre paradigme en fait. Et ça, ce serait vraiment plus intéressant. Donc, pour répondre à la question, je pense que sur 100 ans, les aménagements ont été marginaux. Cela dit, si on parle d'autres pays, c'est clair qu'on voit apparaître énormément d'alternatives. Et ce qui devrait nous faire réfléchir, c'est que c'est notamment aux États-Unis, qui sont le pays qui a toujours propagé la prohibition, qui l'a imposée même, là, de plus en plus, il y a non seulement des légalisations du cannabis pour usage médical, pour usage récréatif aussi, mais il y a aussi l'exemple le plus radical et le plus récent, c'est l'Oregon, qui lors de la dernière élection présidentielle, c'est un peu passé inaperçu parce que c'était une élection assez tendue et haute en couleurs, mais lors de la dernière élection présidentielle, il y a eu un référendum en Oregon qui a entériné le fait que l'usage de toutes les drogues est décriminalisé, ça y est, aux États-Unis. Bon, c'est l'État le plus progressiste, c'est pas l'Oklahoma, mais c'est quand même, ça existe, c'est faisable, ça donne des bons résultats.
Mais justement, dans un article que vous aviez signé à plusieurs signataires venus d'horizons divers, vous compariez la consommation de drogue à l'alpinisme et au fait que si autant de gens consommer des drogues, quelles qu'elles soient, c'est qu'on y trouvait un plaisir. Et donc, qu'est-ce qui explique qu'on criminalise autant des comportements individuels qui, finalement, n'impliquent que soi-même? Et donc, quels sont les enjeux? Comment expliquer que, contrairement à d'autres comportements ou à d'autres activités comme l'alpinisme où qu'on encadre, on met quelques règles pour que ce soit balisé, pourquoi la consommation de drogue
C'est une bonne question, mais je ne suis pas dans la tête du législateur. On a évoqué des possibilités d'intentions sournoises, à savoir contrôler des populations telles ou telles. Il y a peut-être aussi un aspect moral, c'est mal, mais on voit pas trop d'où il vient. Si vraiment on va à l'extrême, à ce moment-là, si on endosse le drapeau des ligues de vertu, à ce moment-là, on interdit aussi l'alcool, le tabac, la prostitution, etc. Bon, un, est-ce que c'est le monde dans lequel on souhaite vivre? Et deux, ça a été tenté, ça a à chaque fois échoué. Donc ça n'a aucune utilité. Et vous parliez du plaisir qu'on peut trouver dans les drogues, mais aussi l'utilité, c'était aussi dans l'article. Si tant de gens consomment des drogues, c'est clairement que, c'est pas aussi horrible que ce que la propagande prohibitionniste a voulu nous faire croire pendant tout ce temps. La drogue, c'est de la merde, etc. On en prend une fois et puis c'est l'horreur absolue et tout. On constate quand même que beaucoup de gens continuent à consommer des drogues. Donc, c'est bien qu'ils doivent y trouver pas seulement l'horreur et peut-être parfois pas du tout, je reviendrai là-dessus. Mais aussi un certain plaisir certainement, mais aussi une certaine utilité. Les stimulants stimulent, Parfois on a besoin d'être stimulé, les calmants en calme, on a parfois besoin d'être calmé, les euphorisants euphorisent, Dieu sait si on a besoin d'euphorie. Donc voilà, et en fait, ce qu'on sait moins, et ça c'est quelque chose que je me plais à appuyer pendant cette campagne, ce qu'on sait moins, c'est que la drogue est toujours, ou les drogues, il faut vraiment en parler au pluriel parce qu'elles sont très diverses, sont toujours abordées par leur côté pathologique. C'est comme si on ne pouvait aborder l'alpinisme, pour revenir à cette analogie-là, qu'en disant tout de suite, oui, mais l'alpinisme, c'est horrible, il y a des morts chaque année, il y a des gens qui restent paralysés, c'est atroce, et ne parler que de ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui prennent leurs pieds pendant toute leur vie à monter sur des montagnes et qui ne sont jamais blessés. Pour les drogues, c'est exactement la même chose. Il y a des chiffres là-dessus. Selon les substances, évidemment, ça varie. Mais grosso modo, 9 personnes sur 10 consomment des drogues. Et on ne parle pas seulement de cannabis, on parle aussi des drogues qu'on a toujours présentées comme atroces et tout. Les consomment sans trop de problèmes, voire sans problème du tout. Environ 9 personnes sur 10 ont une consommation raisonnée. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout. Et ça va être très long pour en revenir culturellement, de ne pas être regardé de travers quand on dit il peut y avoir un côté positif et une utilité. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je pense nécessaire d'appuyer.
Et aussi, ce matin, en faisant la revue de presse, je voyais qu'il y avait comme un débat qui se mettait en place actuellement par rapport au brevetage, par rapport au vaccin contre la Covid. Est-ce qu'il y aurait un lien aussi entre la prohibition de certaines drogues, et donc les drogues dont on parle ici, et l'émergence ou le développement des entreprises pharmaceutiques qui trouveraient aussi un avantage en interdisant des drogues? Okay. Est-ce qu'on ne favorise pas aussi, parce que les antidépresseurs, on peut effectivement prendre un cachet ou fumer un joint ou que sais-je,
historiquement,
pour se sentir mieux. Est-ce qu'il y a un lien, ou est-ce qu'il y a une pression aussi du côté des firmes pharmaceutiques qui se joueraient pour ne rien changer à cette prohibition?
Pas à ma connaissance, mais historiquement ça a pu jouer, clairement. Je peux peut-être juste donner une petite réponse. C'est pas tellement une pression, mais c'est la difficulté d'émergence. Il y a toute une catégorie de substances qui sont prometteuses en thérapie, à savoir les psychédéliques. C'est une branche de la recherche qui a été très difficile à financer parce que toutes ces substances sont anciennes et donc les brevets sont écoulés. Et donc c'est potentiellement moins lucratif. Par conséquent, l'industrie pharmaceutique n'a pas été très intéressée de financer ces recherches, d'autant plus qu'il s'agit de thérapies où la substance est administrée une ou deux, trois fois, mais pas quotidiennement comme un antidépresseur, et donc c'est doublement moins lucratif. Donc il y a un peu de ça. Après, historiquement, c'est bien possible qu'il y ait eu des pressions de cet ordre-là, mais qui ont laissé, à mon avis, peu de traces. Voilà, je ne peux pas vraiment dire plus. Mais non.
Je propose qu'on fasse une mini pause musicale et puis on reviendra. C'est un morceau que vous nous avez proposé, c'est de circonstances, donc c'est Daniel Hélin avec un morceau qui s'appelle La Cam et qui est bien de circonstances. Et cette fois-ci, j'espère que la musique va partir.
Issu des plaines d'Afrique, bonheur enrobé de tabac. Petit matin, à du retrique, glissa des rêves en chocolat. Plante tes vertes à consumer, loi de la déroute et moments cool. Paresse, blues, immobilité, fatigue, rire et grand écroule. Oh oh oh, ah si je m'en vôtre. Oh oh oh, herbeuse m'en vôtre. Yeah. Issu de nos laboratoires, chimie des buvards et pilules. Prise propre, un peu d'eau à boire, noms abrégés ou ridicules. Montée, descente dans la nuit, voyage, vision, beauté facile, joie, alu, peur, folie. Faut pas que ça reste indélébile. Oh oh oh, extatatatiquement. Oh oh oh, acidement. Issu du sud de l'Amérique, au fond des culs, dans les avions. Blanche colombe viennent en Belgique pour faire de nous des canons. Vitesse, énergie par le nez, poudreuse à pulsion, grand réveil, rail sans train pour bien s'énerver, descente en gare que trop plumée. Oh oh oh, cocaïne morpho. Oh oh oh, poudreuse morpho. Sud-asiatique, belle fleur du triangle doré, opiacieuse boule vraiment typique, poudre brune et chair dans nos contrées, recette citron, vinaigre pique, flashs assassins, grand esclavage, des mondes à prendre trop fantastiques, descente de mort lente et sauvage. Oh oh oh, héroïne m'en vôtre, oh oh oh, piqueuse m'en vôtre. À moi, issu d'un monde qui déchire, ni riche ni pauvre, moi je suis là. On accuse toujours de délire, ou le camé, ou le soldat, ils s'en vont tous deux à la mort, ou s'en reviennent avec blessure. C'est pas toujours eux qui ont tort, y'a d'autres coupables, ça j'en suis sûr. Issu d'une planète interdite, les rêves n'existent que dans la tête, les produits n'accentuent qu'une fuite, pas besoin de chimie pour être en fait. Loin de moi l'idée d'une morale, d'un monde où personne se défonce, mais l'argent de toutes ces cavales est dans la poche de qui je dénonce. Mais l'argent de toutes mes cavales est dans la poche de qui je dénonce. Mais l'argent de toutes mes cavales est dans la poche de qui je dénonce. Oh oh oh, simplement vôtre. Oh oh oh, furieusement vôtre. Curieusement vôtre.
C'était donc Daniel Hélin avec la CAM et on est toujours dans les promesses de l'aube, toujours avec Olivier Taimans. Qui se rappelle ce qu'il voulait rajouter avant cette pause musicale?
Oui, par rapport au secteur pharmaceutique, à terme, en fait, si vraiment on commence à légaliser des substances pour lesquelles on ne l'imagine pas forcément aujourd'hui, mais qui sont un petit peu pharmaceutiques, ces firmes pharmaceutiques pourraient obtenir l'autorisation, la licence de les fabriquer pour que ces substances soient pures. Et donc, éventuellement, il y a peut-être même un petit bénéfice à y glaner pour le secteur pharmaceutique, à voir.
Et pour revenir à ce que vous disiez aussi, avant, il y avait la question des salles de consommation aussi. On parlait d'alpinisme et donc du fait que pour 9 personnes sur 10 tout se passait bien, mais il y a quand même des cas où la pénalisation entraîne le fait que les consommateurs ne vont pas chercher de l'aide quand ils sont en situation problématique.
Oui, effectivement, et là on entre un peu dans toute la sphère de représentation d'imaginaire et tout ce que ça véhicule après comme conséquence. Effectivement, quand on criminalise, la consommation devient un peu honteuse, mal vue, stigmatisée. Et par conséquent, les gens commencent à se cacher, à se rassembler entre eux. Et il y a notamment un usager qui témoigne dans une des vidéos de la campagne qui dit « On se fait rejeter de partout, on s'isole, et puis ben, les seuls vers qui on peut aller, c'est d'autres consommateurs qui sont encore plus mal en point et on entre vraiment dans le cercle vicieux. Il dit aussi notamment que même dans le corps médical et dans le secteur de l'aide, peut-être pas spécifiquement le secteur de l'aide à la toxicomanie, parce qu'il a quand même évolué, d'ailleurs c'est un mot qu'on devrait aussi un petit peu bannir, même dans ce secteur-là, on ressent de la stigmatisation chez un médecin, chez un psychologue, c'est des choses qui arrivent encore. Et franchement, si on donnait ce signal de décriminalisation, bon, ce serait pas du jour au lendemain, justement, n'ayons pas la pensée magique du législateur, mais ça donnerait quand même un signal symbolique extrêmement important pour dire stop à cette stigmatisation qui représente effectivement un seuil supplémentaire à la recherche d'aide, parce qu'il y a la honte à surmonter, il y a l'anticipation de la stigmatisation, non mais si j'y vais, ils vont encore une fois me regarder de travers, me dire que si ou ça, me moraliser, etc. Ça devrait plus exister et ça pourrait exister moins si tout ce contexte, ce paradigme changeait, je pense. Oui.
Et effectivement, on est dans une situation où toutes les dépendances, on va dire, où toutes les consommations, c'est pas facile non plus d'aller chez quelqu'un en disant qu'on est alcoolique, par exemple, ou qu'on a un souci par rapport à l'alcool.
Déjà, c'est difficile. Alors, si en plus on doit amener ça, mais par rapport à une substance illégale qui est encore plus mal vue, on conçoit à quel point c'est difficile, et je pense que il faudrait aussi un peu remettre à niveau l'empathie qu'on pourrait démontrer envers ces personnes qui ont des difficultés, parce que on présente souvent un peu la consommation de drogue, et a fortiori la toxicomanie, comme une espèce de vice. En fait, rendons-nous compte, beaucoup de gens se rendent déjà compte, mais ce serait vraiment quelque chose à appuyer encore plus, que c'est juste une souffrance, quoi. Et donc, si on va rajouter de la souffrance à la souffrance en excluant, en stigmatisant, voire en emprisonnant, mais dans quelle société est-ce qu'on vit ? C'est vraiment un peu vertigineux et dramatique, quoi.
Justement, est-ce que le manque de moyens accordés à justement cette prévention des risques, vous évoquez qu'en Belgique, elle est moins de 2% des dépenses publiques liées aux drogues sont allouées à la prévention et à la réduction des risques. Donc c'est vraiment ridicule.
Il y a un problème par rapport à ça spécifique, c'est que la prévention, il y a plusieurs types de prévention. Dans le paradigme actuel, on peut encore dire « just say no », comme on a dit, ou « la drogue c'est de la merde », et on qualifie ça de prévention. Sauf que ça ne marche pas du tout, voire même ça peut être contre-productif. Un adolescent à qui on dit non, il va avoir envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ce nom, ça c'est recta. Mais il y a une autre prévention qui est aussi liée notamment à la réduction des risques, c'est la prévention des problèmes. Et dans le paradigme actuel, c'est difficile parce qu'on est rapidement taxé d'incitation à la consommation. Pourquoi ? Parce que on va, sachant que la consommation aura lieu de toute façon, on va par exemple aller tester la qualité des pilules dans des festivals. On va par exemple donner aussi des conseils de consommation qui sont moins mauvais, qui se fait selon un mode moins mauvais et moins risqué que la consommation à l'arrache sans aucun conseil. Juste un exemple, pour la consommation d'héroïne un peu à l'arrache, on a commencé à faire des échanges de seringues pour qu'au moins les gens se piquent avec des seringues propres et ne véhiculent pas, ne partagent pas les seringues, ne véhiculent pas ni l'hépatite C, ni le VIH, etc. Il y a des gens qui ont considéré que c'était de l'incitation à la consommation. Comme si cette consommation n'avait pas lieu si on ne donnait pas ces conseils, si on ne fournissait pas ce matériel. Et donc, je pense que l'interdiction est une des raisons pour lesquelles la prévention et la réduction des risques sont le parent pauvre. C'est parce que elles n'ont pas les coups des franges, parce qu'on est dans un paradigme où c'est non, on n'a pas le droit. Donc ça, c'est un problème supplémentaire.
Donc on ne va pas vous aider non plus à consommer.
Voilà, oui. Comme si on aidait, comme si on incitait, quoi. Non, oui, c'est, on réduit les risques. Le mot est bien choisi.
C'est ça. Et un autre élément qui semble important, qui m'a frappé moi dans les chiffres que vous partagez durant cette campagne, c'est aussi le fait que nombre de personnes incarcérées le sont pour des faits liés aux drogues en général, et donc c'est lié à la consommation, c'est lié à la vente.
C'est assez peu lié à la consommation. C'est sûr qu'il y a peu de chances, si on est pris à consommer, même quelle que soit la substance, qu'on se retrouve effectivement avec une peine de prison. Mais ça peut être le cas en cas d'usage répété, problématique, circonstances aggravantes et tout et tout. Effectivement, un détenu sur deux, une personne détenue sur deux actuellement en Belgique, l'est pour des faits qui sont de près ou de loin liés à la drogue. Alors ça peut être du trafic, etc. Mais c'est souvent aussi juste le fruit d'une situation qui s'est enfoncée de plus en plus dans une spirale infernale de marginalisation et donc d'addiction, de criminalisation, parce qu'il faut financer l'addiction et c'est pas toujours évident. Donc c'est vraiment cette spirale qui est liée à la criminalisation. Si on décriminalisait, on pourrait opter pour des solutions différentes. Et par exemple, il y a eu des expériences très réussies dans d'autres pays, et même à Liège aussi, jusqu'en 2018, je pense, de prescription de diacétylmorphine, qui est de l'héroïne médicale, donc déjà moins nocive que l'héroïne coupée à plein de substances différentes. Et qui, du coup, est aussi moins coûteuse, et voire gratuite, et ne va pas entraîner cette criminalisation et cette criminalité, c'est clair que dans un paradigme comme celui-là, qu'on a vu au Portugal, les prisons se sont... elles ne se sont pas vidées, évidemment, mais il y a une proportion nettement moindre aujourd'hui de personnes incarcérées au Portugal qui le sont pour des faits de drogue ou des faits connexes. Donc, effectivement, ça participe, mais quand on y pense, c'est quand même un chiffre assez vertigineux. Une personne sur deux, alors toutes ces personnes ne sortiraient pas, parce qu'il y en a qui ont d'abord commis des crimes graves ou qui sont vraiment dans le trafic ou quoi. Mais voilà, ça diminuerait sérieusement, et c'est un facteur.
Et justement, par rapport à cette question du trafic, et puis on reviendra sur le Portugal, mais par rapport au trafic, est-ce que ce n'est pas justement un frein que actuellement la vente, la distribution de toute une série de drogues est aux mains d'une, on va dire, une mafia, en tout cas de trafiquants de drogue qui sont en dehors des radars. Qu'est-ce qui empêche justement qu'est-ce qui rend difficile le fait de légiférer là-dessus et de créer des circuits officiels, on va dire, ou de distribution de ces produits.
Ce qui empêche, je pense, c'est en grande partie un facteur psychologique. On ne va pas, l'État ne va pas devenir un dealer. Il y a vraiment d'abord toute une rééducation psychologique, façon de parler, à mener. Mais le problème des mafias est effectivement un gros problème, dans le sens où c'est vu que ces substances sont illégales, ça attire les personnes avec le moins de scrupules qui se disent « Ok, puisque ce marché-là est disponible, on va se le prendre ». C'est des gens qui n'ont pas de scrupules déjà au niveau de ce qu'ils vendent comme qualité de substance. Après, ils ont un petit intérêt quand même à ce que ce ne soit pas trop mauvais, parce que sinon les gens n'achèteraient pas. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de contrôle de qualité, donc il peut y avoir des différences, soit de pureté, soit de concentration, qui font aussi des overdoses, parce que si on a l'habitude d'avoir une héroïne complètement pourrie et qu'un jour on tombe sur une héroïne excellente, sans le savoir, on peut se donner une overdose. Donc il y a ce problème de la qualité des substances. Il y a le problème aussi que, au fil du temps, ça a fait boule de neige, et ce sont devenus, au niveau mondial, des organisations maléfiques et d'une puissance et d'une richesse vraiment considérable. Un économiste qui participe à notre campagne, et pas des moindres, Paul de Grauw, dit qu'un des problèmes de ce dossier-là, c'est qu'on se retrouve face à un adversaire qui est plusieurs fois plus riche que nous. Alors en Belgique, c'est peut-être pas encore le cas, mais si on voit ça au niveau mondial, oui, effectivement, il y a des mafias qui brassent des milliards et des milliards de dollars. Donc c'est vraiment un problème. C'est un problème de manque à gagner pour l'État, parce que tout ça n'est pas taxé. C'est un problème de génération de criminalité. On le voit à Anvers, dès qu'on augmente la répression contre le trafic, ça devient un peu la guerre. Il y a eu des grenades et des têtes coupées à Anvers. Jusque-là, c'était à Rotterdam, mais la politique menée par Bart De Wever de « on augmente la guerre à la drogue » a encore augmenté ça. Et puis, il y a le problème aussi après l'infiltration, quand on a tout cet argent. Donc le marché, pour qu'on se fasse une idée, le marché de la consommation de drogue en Belgique est estimé par la Banque nationale à 700 millions de dollars. C'est quand même assez d'euros, pardon. C'est quand même assez considérable. Tout cet argent, tout ça rapporte. Cet argent est réinvesti après dans l'économie légale par des mécanismes de blanchiment qui exigent de la corruption. Et au total, c'est de l'argent qui gangrène vraiment les circuits légaux, voire même la démocratie. C'est Bart De Wever lui-même qui a dit que il pensait que dans à peu près tous les partis, il y avait des personnes infiltrées qui venaient des mafias de la drogue. Et évidemment, dans tout sauf le sien. Mais voilà, c'est peut-être un peu sensationnel, mais l'idée n'est pas fausse. Si on doit vraiment obtenir des décisions favorables, dont le maintien de la criminalisation, parce que c'est de ça que vivent les mafias, c'est logique, et ça, on l'a vu de manière très démontrée dans d'autres pays qui sont plus touchés par ça et qu'on appelle maintenant des narco-états, comme la Colombie ou le Mexique. Ils sont infiltrés jusqu'au plus haut niveau de l'État. On n'en est pas là en Belgique, mais c'est un mécanisme fatal. Quand on a plein d'argent à dépenser et qu'on veut que le climat politique soit favorable pour toute cette activité, on finit par infiltrer ça. Et c'est vraiment un problème pour la démocratie.
Mais justement, c'est un peu un cercle vicieux, parce que justement, ces mafias, elles sont nées sur le fait que ça a été interdit. Et donc, on a l'image, on évoquait tout à l'heure, la prohibition de l'alcool avec ces mafias, que si c'est pas interdit, on n'est pas obligé de le vendre sous le manteau, on peut le vendre...
Mais c'est lors de la prohibition qu'est né Al Capone, notamment.
Oui, et du coup, comment on peut faire et durant cette, quels sont les arguments aussi qu'on pourrait utiliser? Est-ce qu'il s'agit juste de 5 minutes de courage politique, comme on peut, et de dire, on le fait, est-ce que ça résoudrait tout? Est-ce que, au vu de l'infiltration à tous les niveaux de pouvoir, est-ce que, je ne vais pas dire peine perdue, mais est-ce que ce n'est pas plus compliqué que juste changer...
Ça dépend d'où on parle et ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire qu'effectivement, si demain au Mexique on veut tout légaliser ou en Colombie, c'est compliqué. Cela dit, il y a un parti en Colombie qui a déposé un projet de loi pour légaliser la cocaïne, ce qui est assez courageux et clairvoyant probablement. Mais je crois que là, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, clairement, parce que la situation est trop envenimée et les enjeux sont gigantesques et les mafias ne vont pas se laisser faire comme ça. On peut craindre un peu de violence ou de corruption ou de quoi que ce soit. En Belgique, on n'en est heureusement pas là et ça dépend aussi de quoi on parle. C'est clair que légaliser des substances, c'est un chemin qui demande longue réflexion, concertation, consultation des exemples internationaux, etc. Par contre, c'est aussi pour ça qu'on a choisi vraiment comme premier pas cette revendication de décriminalisation. En Belgique, pour la décriminalisation, il ne faut pas beaucoup plus qu'un peu de courage politique. 5 minutes, c'est peut-être un peu plus que ça, mais c'est une mesure qui ne coûte rien. C'est un changement législatif, ça coûte 3 fois rien, et qui peut rapporter déjà le fait que on soulage un petit peu les services de police et le judiciaire. Donc, ça rapporte déjà indirectement. Mais effectivement, on n'est pas dans une situation où, si on commence à parler de décriminalisation, des mafias surpuissantes vont commencer à se sentir mal et commencer à faire des vagues d'attentats ou des assassinats ciblés ou des trucs comme ça. La Belgique n'est pas encore un narco-État, mais c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il est temps, après un siècle, n'attendons pas que ça en vienne là. Cela dit, on est un État qui produit pas mal de drogues de synthèse et on est exportateur notamment d'ecstasy. Il ne faut pas laisser traîner les choses trop longtemps.
Et justement, tout à l'heure, on évoquait ces conventions internationales qui régissent un peu la prohibition. Comment on explique que le Portugal puisse mettre en place une politique qui est quand même assez novatrice et qui est porteuse de bons résultats? Et que, est-ce que c'est juste une question d'inertie des gouvernements? Est-ce que, et je veux bien aussi en savoir plus sur ce qui a été mis en place au Portugal.
C'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant parce que c'est un peu toujours l'excuse qu'on avance en disant « Ah mais on voudrait bien changer notre législation nationale, mais on est pieds et poings liés par tous ces traités qu'on a signés, différentes conventions des Nations Unies de 61, de 71 et dans les années 80, je pense. » visiblement, il y a moyen de faire autrement, puisque le Portugal l'a fait, et ça n'a pas déclenché de guerre ou de quoi que ce soit. Il y a apparemment, je ne connais pas les traités par cœur, il y a apparemment des clauses qui permettent quand même une certaine latitude personnelle, mais c'est difficile, et on salue d'autant plus le courage du Portugal, c'est difficile d'être le premier qui va dire « vous faites tout comme ça, moi je vais faire autrement ». Mais là, c'était vraiment une espèce de nécessité, dans le sens où le Portugal a été sous le joug de la dictature jusqu'en 1974, il y a eu la révolution des œillets, il y a eu une aspiration de liberté, mais une situation sociale qui évoluait pas forcément tout de suite favorablement, Et ça a donné lieu à une crise d'addiction à l'héroïne. Apparemment, à un moment donné, 1% de la population, toute classe sociale confondue, était consommée de l'héroïne, ce qui est quand même vraiment très très considérable. Ça entraînait un nombre d'overdoses assez impressionnant, une diffusion du VIH très inquiétante, etc. Tout ça a fait dire aux décideurs au Portugal qu'il fallait vraiment changer radicalement de cap dans la politique drogue. Et en 2001, ils ont pris des mesures où l'usage des drogues était décriminalisé. Et en parallèle, et c'est quand même très important, c'est pas juste le coup de baguette magique de la décriminalisation, ils ont développé très fortement le système d'accompagnement, d'aide aux personnes dépendantes et qui présentent un usage problématique. Et ils ont augmenté aussi la prévention, la réduction des risques. Enfin, c'est un dispositif total quand même, il faut le souligner. Mais là, voilà, on est d'une part avec une loi qui a un siècle et qui non seulement est inefficace, mais ça s'enfonce de plus en plus, la consommation continue d'augmenter. Et ben là, en quelques années, une autre politique a porté ses fruits. En une dizaine d'années, le nombre d'overdoses a été divisé par 6 au Portugal. Les nouvelles contaminations au VIH ont diminué de 70%. Le coût social global des drogues a fortement diminué aussi. Le nombre de personnes incarcérées pour des faits de drogue ou des faits connexes a radicalement diminué. Et les résultats sont très bons. C'est pas encore parfait. Il y a encore des petites choses à améliorer à gauche et à droite. Mais avec rien qu'une mesure partielle comme ça, on n'a pas éradiqué les mafias puisque c'est une décriminalisation. Le trafic continue et ils ont augmenté encore la lutte contre le trafic. Mais même avec une mesure aussi partielle, les résultats sont quand même tout de suite, rapidement au rendez-vous. Donc, quand on voit la balance un peu d'un côté, cette loi inefficace et où ça va de mal en pire, et d'un autre, une loi qui a des effets impressionnants directement, je ne comprends pas ce qu'on attend.
Et justement, tout à l'heure, enfin, on a évoqué plusieurs fois Bart De Wever et sa position, notamment à Anvers, où il y a clairement beaucoup de trafic au port. Quelle est la position des autres partis, quel est le rapport de force, on va dire, actuellement au sein du milieu politique pour changer cette...
C'est peut-être pas le pire moment, en fait, pour plusieurs raisons. Effectivement, les conservateurs de Bart De Wever sont assez opposés. Il a eu une sortie il n'y a pas si longtemps assez étonnante dans un livre pour lequel il était interviewé. Il a dit que la légalisation, donc là il parle carrément de légalisation, serait une vraie solution, mais qu'il refusait de l'envisager. Donc quelque part, il a une solution qui ne fonctionne pas, il le sait très bien, mais c'est celle qu'il faut appliquer. Et il y a une autre solution qui serait une vraie solution, mais ça, moralement et électoralement, il ne peut pas l'envisager. Cela dit, les autres partis du spectre politique et qui sont aujourd'hui au gouvernement, on est peut-être dans une conjoncture favorable, dans le sens où les socialistes, ça fait un bout de temps qu'ils ne sont pas contre. Et il faut noter d'ailleurs que dans une bonne partie du spectre politique, les sections jeunes des partis ont toujours été assez à pousser pour, en tout cas, changer de politique drogue, et que les partis mères ou pères avaient un peu de mal à les écouter. Dans la conjoncture actuelle, les socialistes sont partants depuis un certain temps. Les libéraux apparemment commencent aussi. Il y a plusieurs libéraux qui ont déclaré à titre personnel qu'ils seraient pour une révision, en tout cas, des modalités par rapport au cannabis. Encore hier, dans un débat sur la première, il y avait un politicien du MR qui disait qu'il était favorable à une révision, etc. Donc, c'est quand même les composantes principales du gouvernement actuel, les socialistes et les libéraux. Les libéraux, ça part aussi d'une idée que une légalisation pourrait rapporter beaucoup d'argent et que, en ces temps de difficultés économiques par rapport à la crise Covid, ça pourrait être intéressant dans une idée de relance. À part ça, au gouvernement, il y a les écolos qui sont pas extrêmement rétifs non plus à revoir la politique drogue. Il y a peut-être juste encore le CDNV qui serait assez difficile à convaincre, mais voilà, c'est une composante minoritaire du gouvernement. Donc, on est possiblement dans une conjoncture favorable politiquement, et par conséquent, j'attends avec impatience la réaction politique un peu plus globale qui viendra par rapport à cette campagne.
Et du coup, parce que je vois que le temps passe, quelles seront les étapes de cette campagne? Comment on peut, quels seront vos prochains pas?
Alors, le premier pas, aujourd'hui, il y a déjà eu un petit peu de teasing. On a sorti quelques vidéos avant le grand jour qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir de maintenant, le site internet est en ligne, unhappybirthday.be. Sur lequel vous trouverez toutes les vidéos, un certain nombre de messages écrits aussi, qui sont de toute nature. Il y a des chiffres, des constats, des témoignages, des propositions. Ces messages, on va encore en rajouter tout au long de l'année, parce que la campagne durera à peu près toute l'année. On va en rajouter pour qu'ils arrivent au nombre de 100, pour symboliser les 100 années de loi prohibitive. Et puis, au fur et à mesure de l'année, il y aura encore divers événements. C'est sûr que c'est un contexte difficile pour prévoir à long terme des événements. Il y a des choses qui vont devoir être annulées ou déplacées. Il y a en tout cas la liaison antiprohibitionniste qui fait partie de cette campagne, qui organise un colloque à la fin du mois de mai, qui aura peut-être lieu, même plus que probablement lieu en ligne en grande partie, qui comparera un peu les modèles existants de légalisation dans divers pays par rapport au cannabis, mais aussi éventuellement par rapport à d'autres substances. Ce sera une réflexion assez large sur la notion de légalisation et les différents modèles qui sont possibles, parce que ça va d'un spectre à l'autre, très étatique, très commercial, non commercial mais moins étatique. Il y a vraiment pas mal de cocktails qui sont possibles. Et puis, au fur et à mesure, tout n'est pas encore déterminé. On pourrait organiser des débats. Au mois d'octobre, il y aura aussi un tribunal de la loi drogue qui sera organisé pour un peu mettre en jugement cette loi. Et voilà, il y aura toute une série d'activités qui seront déployées. Évidemment, elles seront annoncées par les réseaux sociaux et aussi par le site unhappybirthday.be. Que je vous conseille de tenir à l'œil et de lire de fond en comble.
Et donc, il y a ce site-là et il y a aussi Stop 1921, ça c'est deux choses différentes.
Pas tout à fait, c'est-à-dire que Stop 1921 est un des deux organisateurs de la campagne avec Smart on Drugs. Donc, je tiens à préciser que c'est une campagne nationale et bilingue. Le site web est disponible en deux langues. Pardon. Smart on Drugs, c'est une association flamande plutôt de citoyens qui se sont réunis pour demander une autre politique drogue et qui a sur son site un manifeste qu'il invite le public à signer. Stop 1921, c'est plutôt une large coalition d'associations qui sont du secteur, tout à fait du secteur ou un petit peu de secteur connexe. Et qui, en vue de ce jubilé de 2021, ça fait déjà quelques années qu'ils mettent en place des campagnes et des actions de sensibilisation. Et le point culminant, c'est maintenant cette campagne Un Happy Birthday, ensemble avec nos partenaires flamands de Smart on Drugs.
Ok, merci beaucoup Olivier d'être venu nous parler de cette question passionnante.
Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité.
Et bonne campagne, et donc on rappelle les sites happybirthday.be
.be.
Et stop1921.be aussi, et sur les réseaux sociaux.
Oui, de Stop 1921 et de Smart on Drugs.
À foison. Merci beaucoup. Et on va se quitter, en tout cas on va écouter maintenant, c'était d'occasion, si on ne le passe pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on va passer un Happy Birthday des Smiths, c'est de circonstance et c'était aussi un de vos choix. Bonne journée à vous et à bientôt.
Merci beaucoup.
You're evil and you lie, and if you should die, I may feel slightly sad, but I won't cry. Loved and lost, and some may say, we
when usually it's nothing. Surely you're happy it should be this way. I say no, I'm gonna kill my dog. May the line sag heavy and deep tonight. I come to wish you an unhappy birthday. I've come to wish you an unhappy birthday. 'Cause you're evil and you lie, and if you should die, I may feel slightly sad, but I won't cry. Loved and lost, and some may say, when usually it's nothing, surely you're happy it should be this way. I said no, and then I shut myself. So drink, drink, drink and be ill tonight. From the one you left behind, from the one you left behind, from the one you left behind.
It's me, Oscar the Grouch, and you know what I was thinking about? I was thinking about the first birthday party I ever went to. Did you ever go to a Grouch birthday party? Well, in case you didn't, I'm gonna tell you about it. Now, the first thing you do when you go to a Grouch birthday party is, as soon as the door opens, you give your present to the person whose birthday it is, and you say, a very unhappy birthday to you, ho. May none of your wishes ever come true, ho. May your skies be always gray. May you have a rotten day. A very unhappy birthday to you, ho. Now a Grouch's birthday really can't be beat. There are lots of nasty people, lots of yucky food to eat, and we have a rotten time the whole long afternoon. Then everybody stands and sings this lovely birthday tune. Very unhappy birthday to you, ho. May none of your wishes ever come true, ho. May you eat up so much cake that you get a tummy ache. A very unhappy birthday to you, ho. Now let me tell you about the food that we eat at a Grouch's birthday party. We eat mud cake topped with pickle juice and beans, and a special ice cream sundae made with spinach and sardines. And we really gulp it down till our tummies feel all wrong. Then everybody stands and sings this lovely birthday song. A very unhappy birthday to you, ho. May none of your wishes ever come true, ho. May the presents that you get make you angry and upset. A very unhappy birthday to you, ho. Now there's one more thing I want to tell you about, and that's the presents we give each other. Now the best things are the presents that we get, like a pair of smelly socks all full of holes and soaking wet, or a bike that has no wheels, or a phone that never rings. And after all the presents, everybody stands and sings a very unhappy birthday to you, ho. May none of your wishes ever come true, ho. May your skies be always gray. May you have a rotten day. A very unhappy birthday to you, ho. A very un, very un, very un, very un, very un, very un, very, very unhappy birthday to you. Yeah.
Voilà, on écoutait donc Oscar de Grouch avec A Very Unhappy Birthday qui faisait suite au Unhappy Birthday des Smiths. Et c'était pour clôturer cet entretien avec Olivier Taimans autour de la campagne Unhappy Birthday pour mettre fin à la loi drogue qui a 100 ans aujourd'hui même. Et c'est la fin de ces promesses de l'aube. On se retrouve mercredi prochain.